Bonjour, Morgane sur CFM, dans l'émission « Les hommes sont des animaux comme les autres », l'émission mensuelle consacrée aux animaux et aux thérapeutiques naturelles. Aujourd'hui, Valérie Proust, praticienne en fleur de Bac, va nous parler de l'état émotionnel d'incertitude et de découragement. Ensuite, je vous parlerai d'une pratique dangereuse pour la survie de la biodiversité des océans et pourtant pratiquée par la France, le chalutage de fond. Elle est plus que d'actualité car il ne reste que 10 jours avant le vote sur la pêche en eau profonde au Parlement européen. Mais pour commencer, je vous propose de découvrir le terme ostéopathique du mois, le fascia, après la musique.
All it glitters is gold, and she's buying the stairway to heaven. When she gets there, she knows if the stores are all closed, with a word she can get what she came for. She's buying a stairway here. There's a sign on the wall, but she wants to be sure, 'cause you know sometimes words have two meanings. In a tree by the brook, there's a songbird who sings. Sometimes all of our thoughts a feeling I get when I look to the west, and my spirit is crying for leaving. In my thoughts I have seen rings of smoke through the trees, and the voices of those who stand looking. Stand long, and the forests will echo with laughter. Thank you.
place you don't know. The piper's calling you to join him. Dear lady, can you hear the wind blow? And did you know your stairway lies on the whispering wind?
Peut-être avez-vous déjà entendu le terme fascia chez votre ostéopathe ou ailleurs sans savoir vraiment ce que c'est. Dans la plupart des dictionnaires médicaux, la définition du mot fascia se résume à fine membrane enveloppant le muscle. Mais cette définition est bien trop limitée. En fait, le fascia est une fine membrane translucide qui enveloppe différents tissus du corps, comme effectivement les muscles, les fibres musculaires, les muscles et certains groupes de muscles, mais aussi les viscères, les os, les artères, les ligaments, les nerfs ou encore le cerveau. Les fascias ont différents noms selon leur localisation et leur densité fibreuse. Par exemple, le fascia entourant un groupe de muscles s'appelle l'aponévrose, le fascia entourant l'os se nomme le périoste, pour les poumons c'est la plèvre, pour le cortex les méninges et pour le cœur le péricarde. On retrouve ces fascias dans le corps entier comme des toiles d'araignée et cela peut parfois expliquer des réactions qui se produisent à distance du point de déséquilibre d'origine ou des réactions en chaîne. Les fascias ont différents rôles comme envelopper, protéger, séparer, relier les différents tissus ou organes entre eux. Ils permettent aux différents muscles de glisser entre eux, ils absorbent également les chocs auxquels nos organes peuvent être confrontés et interviennent dans la nutrition des organes grâce à leurs cellules riches en fibres. Et surtout, ils permettent à nos organes de communiquer en assurant leur liaison et leur mouvement. Comme les rôles des fascias sont importants dans l'équilibre global de l'organisme, l'ostéopathie travaille entre autres à normaliser les fascias à l'aide de techniques manuelles variées.
One day. what's inside of me. I'm overcoming gravity. I'm overcoming gravity. It's easy when you're sad to be. It's easy when you're sad. Sad enough me.
I like pleasures like with pain, and music is my aeroplane. It's my aeroplane. Somber, sweet and sour chain, and music is my aeroplane. It's my aeroplane.
Pleasures spiked with pain.
Rejoindre sur CFM dans l'émission Les hommes sont des animaux comme les autres. On retrouve comme chaque mois Valérie. Bonjour Valérie.
Bonjour Morgane.
De quoi vas-tu nous parler ce mois-ci ?
Alors aujourd'hui, on va parler des états d'incertitude et de découragement.
D'accord.
Voilà. Donc dans cette famille, on a 6 fleurs. Et alors on commence par Cerato. Donc incertitude, elle est liée plus à l'incertitude, cette fleur. C'est Cerato, c'est quand on est toujours en train de chercher la bonne réponse en soi, qu'on n'y arrive pas. Mmh. Donc on va être sans arrêt à l'extérieur, on va demander à tout le monde si on prend c'est la bonne vie, décision. Ouais. Voilà. Et du coup à la fin, ben on a demandé à tellement de personnes qu'on sait plus ce qu'il faut faire. Mmh. Et donc ça apporte vraiment de la confusion. Et donc cette fleur, elle va nous aider à acquérir la certitude intérieure et l'intuition dont on a besoin pour faire des choix, pour prendre nos propres décisions, quoi, pour avancer. Et elle aide à ce qu'on appelle la bonne coordination entre une pensée concrète et une pensée abstraite. Quand on se fait une idée de quelque chose et qu'on n'arrive pas à la comprendre pour la mettre en œuvre dans notre réalité. Mmh. Voilà. Donc c'est vraiment à l'excès, il y a des gens qui vont être toujours en train d'aller voir des voyantes pour connaître l'avenir, pour savoir ce qu'ils doivent faire, prendre comme décision. Et ça peut être vraiment handicapant et amener en plus à, en excès, beaucoup de manque de confiance en soi.
Ouais.
Donc voilà, ça c'est un état d'incertitude vraiment
pour les choix de la vie,
voilà.
Choses comme ça.
Voilà. Ensuite, on a Scléranthus. Alors, c'est le type d'indécision. Très clair, quand on peut pas choisir entre deux choses. Voilà, entre une paire de chaussures blanches et une paire de chaussures noires. Donc du coup, on achète les deux. Quand on hésite, mais ça génère aussi beaucoup d'instabilité mentale, émotionnelle et de grosses confusions. En fait, ça peut mettre la personne dans un gros état de, ben, on sait plus quoi choisir, on sait plus ce qu'il faut faire. et ça décourage énormément. Mmh. Ça peut empêcher justement d'avancer, parce que comme on peut pas choisir, bah on fait pas de choix, donc on stagne, hein, et ça c'est très inconfortable.
Tout prendre ou rien prendre du tout.
Voilà. Et on se retrouve toujours à, quand les gens, ben, ils ont avancé, ben, nous on est toujours à la traîne, en train de se dire qu'est-ce que je dois faire, comment je dois gérer et de quel côté je vais, à droite, à gauche, etc. Et quand on prend pas de décision, ben on avance pas en fait. Voilà. Et ça c'est très handicapant. Donc cette fleur, eh bien, elle apporte l'équilibre, la stabilité, elle ramène l'esprit de décision et en fait, bah, le choix il se fait simplement quoi. Il y a plus le doute qui s'installe, qui s'immisce, parce que ces personnes-là, elles se retrouvent, les deux sont tellement bien quoi. Il y a pas de défaut ni d'un côté ni de l'autre. Et quand elle prend une décision, elle peut avoir complètement l'opposé le jour d'après pour se dire bah non, c'est l'autre qui c'est l'autre choix qui est mieux. Alors ensuite on peut parler de la gentiane, qui alors là ça apporte dans l'état de découragement, c'est la fleur qui va nous amener la foi, vraiment l'espoir. Quand tu doutes d'une situation dans le futur par exemple, tu envisages pas bien ton avenir, tu sais pas, quand on est toujours en train de voir le mauvais côté, en disant bah oui mais bon, effectivement dans toute situation il y a un côté positif,
un côté négatif.
Et puis là, bah la personne elle va être centrée sur le côté négatif et du coup ça va l'empêcher de prendre des décisions également.
Donc ça aide de positiver un peu.
Complètement. Ouais. Et de retrouver de la, ce qu'on appelle la foi, l'espoir dans la vie, un peu dans les choses, même si on est dans une situation difficile, mais de toute façon, il y a toujours du mieux quelque part. Ça ne s'arrête jamais. Il y a des personnes qui vont vraiment avoir du mal à sortir de leur état négatif, de leurs difficultés, et focaliser uniquement que sur les points noirs des choses. Et là, la gentiane, c'est vraiment une fleur qui va apporter en même temps de la persévérance et aider la personne à accepter ben, de passer par une période difficile.
Donc ça peut aider par exemple un animal qui s'est fait abandonner, qui a plus du tout d'espoir de se faire adopter, ou que la personne le garde vraiment, ça peut peut-être l'aider à avoir
Exactement.
Confiance.
Exactement, ouais, c'est vraiment la fleur de la foi et de la confiance. Voilà. Alors ensuite on a gorse. Alors gorse c'est la jaune, donc ne serait-ce que par sa couleur, c'est le jaune de la volonté qui ramène de la joie intérieure. En fait, on est là dans des gros états d'accablement. Et là, il y a vraiment un état chronique très, très ancré et très dur à vivre aussi pour la personne. Et en fait, pour les états chroniques, tu vois, avec les animaux, quand un animal, il y a quelque chose, mais ça se guérit jamais bien.
Donc une maladie oui chronique.
Voilà, pour tous les états chroniques.
Des animaux qui ont été battus peut-être pendant longtemps aussi, ça peut faire ou...
En fait, si ça génère un état peut-être de soumission chronique ou quelque chose, tu vois, tout ce qui est sous-jacent, qui dure, qui traîne, quoi. Et en fait, là, ça apporte de la lumière, de la couleur et de la joie. Ouais. Voilà. Donc ça fait ressortir et on se relance dans le positif, quoi. Ça remet dans le courant de la vie. Voilà. C'est une jolie fleur. Elle est vraiment à sortir d'un état qui traîne. Ça, c'est très très.
D'accord.
Très, très spécifique. Ensuite, alors, pour l'abattement, l'incertitude, le découragement, il y a le découragement de pas réussir à faire les choses, pas avoir l'entrain, être dans la lassitude physique, pour tout ce qui est le quotidien, quand on en a marre du train-train, etc., qu'on n'a plus la pêche pour se lancer à faire quelque chose.
Ouais, c'est trop la routine.
Voilà. Ou alors, ça demande beaucoup d'énergie pour s'y mettre. Alors là, c'est Hornbeam, c'est le charme. Et en fait, là, c'est la fleur qui booste, quoi. C'est le booster du lundi matin quand il faut retourner travailler, quand on a plutôt envie d'aller en vacances. Et en fait, elle redonne de l'intérêt aux choses qui nous paraissent vraiment anodines, sans intérêt, et qui nous pèsent. Et en fait, on retrouve justement de la créativité et puis de la vivacité pour vivre les choses du quotidien. Voilà,
c'est pas mal ça.
Oui. Pour démarrer des choses quand on reporte tout le temps, qu'on sait qu'on a de la paperasse à faire.
On le fait jamais.
Voilà, ranger le fond des placards ou je sais pas, s'attaquer à quelque chose qui nous semble un peu compliqué. Ouais. Voilà. Ça c'est la fleur, on appelle la fleur du lundi matin. Et pour finir la série, il y a Wild Oats, qui est l'avoine sauvage, le fol avoine. Et alors là, c'est quand on a fait beaucoup de choses dans sa vie et qu'on se retrouve à avoir à nouveau besoin de reprendre sa voix. Mmh. On a un peu perdu son cap, on va dire, et qu'on s'est un peu dispersé. Enfin, sans s'être dispersé, mais en ayant fait beaucoup de choses différentes.
On a fait plusieurs formations, de savoir laquelle vraiment dans quoi on veut s'investir.
En général, ces personnes-là ont beaucoup d'expérience dans différents domaines et qu'au bout d'un moment, elles savent plus trop quoi faire avec tout ça. Et en fait, cette fleur, elle te fait le tri quelque part et elle te ramène à ton essentiel.
Ouais.
Voilà, donc ça
te
permet
recentre.
De... Ouais. C'est vraiment, on sort de l'incertitude et puis de la frustration de pas savoir où on va, de pas trouver sa voie, etc. Et ça simplifie en fait. On se retrouve vraiment on reprend contact avec ses propres qualités, ses talents, etc. Et c'est vraiment la foi de la fleur de la voix,
d'accord, voilà,
de la nouvelle voix. Voilà. Donc ça c'est la fin de la série. De l'incertitude et du découragement.
Valérie, merci. Donc, on le rappelle, tu es praticienne en fleurs de Bac, tu es située à Marcillac-Vallon et tu fais donc des consultations aussi par téléphone pour les gens qui ont besoin de conseils pour les troubles émotionnels.
Voilà.
Donc, merci.
Merci, Morgane.
Et au mois prochain.
Merci, au revoir.
Traverser les océans du vide, à la mémoire de nos frères dont les sanglots si longs faisaient couler l'acide. Always lost in the sea, always lost in the sea. Tout part toujours dans le flot, fond des nuits sereines, ne vois-tu rien venir? Les naufragés et leurs peines qui jetaient l'encre ici et arrêtaient d'écrire. Always lost in the sea, always lost in the sea, always lost in the sea, always lost in the sens qu'on crève un abcès, c'est le poison qui coule. Certains nageaient sous les lignes de flottaison intime à l'intérieur des poules. Oh, sombreros de la mer qui ont su traverser les océans du vide. À la mémoire de nos frères dont les sanglots si longs faisaient couler l'acide.
Le chalutage de fond, comme son nom l'indique, est une pratique de pêche qui consiste à aller chercher des poissons qui se trouvent à proximité des fonds marins, à des profondeurs très importantes, de 400 mètres minimum à plus de 1500 mètres. Les océans profonds, où vivent ces poissons cibles de pêche de fond, représentent à eux seuls 98% de l'espace dans lequel la vie peut se développer sur Terre. Le milieu profond est très mal connu de la science et quasiment inexploré. Mais cette pêche de fond a connu un essor phénoménal, passant de presque rien dans les années 70 à environ 500 000 tonnes par an. Pourquoi aller chercher si profond? L'océan n'est pas assez grand pour les estomacs humains.
Les océans profonds avaient été jusqu'ici épargnés des perturbations humaines, mais ils sont dorénavant exploités à échelle industrielle, et ce depuis plus de 30 ans. La pêche profonde résulte directement de l'épuisement des ressources marines dans les eaux de surface. Après avoir surexploité les stocks de poissons en surface, les flottes de pêche industrielles se sont tournées vers les grands fonds pour trouver la ressource qui leur faisait défaut. Mais les populations qui vivent en bas ne sont pas les mêmes et sont plus sensibles à l'exploitation. Comment sont pêchés les poissons des fonds marins? C'est le plus souvent au chalut. C'est un filet traîné par le chalutier. Il a une forme caractéristique en entonnoir, prolongée à l'ouverture par des ailes pour en élargir la portée. Il peut être tracté par un seul ou par deux navires. Le chalut est traîné par des câbles et est fermé à son extrémité par un cordage. Un système combiné de panneaux, de chaînes et de lièges ou flotteurs plus techniques permet de maintenir son ouverture béante et d'en régler la forme et la profondeur. Il y a également un sondeur qui permet entre autres de détecter un banc de poissons et de placer le filet face au banc. Le chalutage est une technique qui suit au plus près le plancher océanique. Ces filets avancent grâce à des rouleaux qui surmontent tous les obstacles. L'ouverture du plus grand de ces filets est aussi large qu'un terrain de foot et aussi haute qu'un immeuble de 3 étages. Mais quel est l'impact de ces pêches ? Le principal problème dans le chalutage de fond est que comme après le passage d'un bulldozer dans une forêt, il ne reste rien. Alors que les fonds sous-marins sont des écosystèmes riches et remarquables. Ces filets détruisent les fonds sous-marins. Tirés sur le sol, ils rasent tout. Ils anéantissent les habitats marins, les récifs d'éponges, les colonies coralliennes qui ont mis des siècles à se développer. Ils aplanissent le sol et ne laissent plus après leur passage que du sable mis à nu, des débris de rocailles et de coraux. En plus, comme les filets emportent tout sur leur passage, il y a 30 à 40% du contenu des filets, voire plus, qui sont constitués de ce qu'on appelle des prises accessoires, c'est-à-dire qui n'intéressent pas les pêcheurs et sont aussitôt rejetés à la mer, morts bien sûr, comme des déchets. Beaucoup d'espèces de poissons sont ainsi épuisées. Les zones de pêche sont le plus souvent des massifs montagneux sous-marins où se concentrent de nombreux animaux. La pêche intensive en un même lieu amenuise le stock de poissons en quelques années. La zone est alors abandonnée et les navires vont exploiter une autre zone. L'écosystème marin de la planète peine à suivre la demande des humains. Les 2/3 des ressources halieutiques en sont actuellement à leur exploitation maximale, voire en surexploitation. Le cas le plus flagrant est celui de la morue, dont les stocks ne se sont pas reconstitués malgré un moratoire exécuté en 1995. Ou encore l'exemple de l'empereur ou Oplostète orange, un poisson des grands fonds vivant jusqu'à 2000 mètres. En Nouvelle-Zélande, il est pêché depuis les années 60. Son exploitation en Atlantique a fait chuter les populations au point d'interdire sa capture depuis 2010. On ne peut même pas mesurer l'impact réel du chalutage de fond, car les espèces vivant en eau profonde sont très mal connues. On sait qu'elles ont souvent besoin de nombreuses années avant de devenir adultes et de pouvoir se reproduire, et elles ont une fécondité faible. Le poisson empereur, par exemple, vit 150 ans, et se reproduit seulement à partir de 20 ans. En pêchant ces poissons en très grand nombre, les chaluts de fond les mettent en danger. Ces espèces n'ont plus le temps de se reproduire et sont menacées de disparaître. La pêche en eau profonde met en jeu le monde de la rapidité contre celui de la lenteur, le profit à court terme réservé à quelques-uns contre le bénéfice à long terme pour tous. Ce drame écologique n'a comme équivalent que la déforestation en Amazonie. Toutes les données scientifiques confirment que les formes de vie en eau profonde sont très lentes à se remettre de tels dommages. Des décennies, parfois des siècles, et dans certains cas, jamais. S'ils sont autorisés à continuer, les chalutiers de fond détruiront une grande partie des fonds marins avant même que nous les connaissions tous. Moins de 300 bateaux à travers le monde participent à cet océanocide pour capturer quelques poissons à forte valeur commerciale, mais ils anéantissent de façon irréversible des colonies de coraux vieilles de 10 000 ans, patrimoine naturel mondial de l'humanité. Les écosystèmes profonds sont des victimes parfaites. Éloignés des yeux, des cœurs, isolés, muets, ils sont dévastés par les chaluts profonds sans disposer de moyens de défense ni de témoins. Pour agir, je vous propose d'aller signer la pétition en ligne sur le site http://petition.bloomassociation.org. Voici le texte de la pétition. 2013 est une année cruciale pour la protection des océans profonds. La Commission européenne a proposé l'interdiction du chalutage profond, une méthode de pêche décrite par les chercheurs comme la plus destructrice de l'histoire. D'immenses filets lestés raclent les fonds marins jusqu'à 1800 mètres de profondeur et dévastent des écosystèmes multimillénaires et des espèces vulnérables dont certaines sont menacées d'extinction. En France, moins de 10 navires sont impliqués dans la pêche profonde au chalut de fond. 6 d'entre eux appartiennent à la flotte d'Intermarché. Malgré les millions d'euros d'aide publique qu'ils perçoivent, ces navires industriels sont tous déficitaires. Le chalutage profond est un gouffre à fonds publics. Il n'existerait pas sans le soutien de nos impôts. Les lobbies de la pêche industrielle font pression sur les États membres de l'Union européenne et les députés du Parlement européen pour éviter l'interdiction de cette méthode de pêche dont le modèle économique sous-performant et dépendant des aides publiques appartient au passé. Les lobbies s'appuient notamment sur la France pour faire avorter le règlement européen. La mobilisation citoyenne peut contrecarrer le pouvoir des lobbies. Aidez-nous à éliminer cette méthode de pêche destructrice et à faire en sorte que nos élus et diplomates retrouvent la dignité de leurs fonctions en recevant des directives claire et ambitieuse de la part du président de la République. Mais rappelez-vous, lorsque vous faites vos courses ou lorsque vous mangez, vous cautionnez. C'est l'acheteur qui fait la différence. Alors votez pour la préservation du plus grand réservoir de vie sur Terre et boycottez à tout prix les espèces profondes comme le sabre noir, la lingue bleue, le siki, les sébastes, la saumonette, le grenadier, l'empereur, le flétan du Groenland ou encore le hoki. Il faut aussi éviter les espèces en voie de disparition et ceux dont l'élevage ou la pêche est nuisible pour l'environnement. Évitez donc le cabillaud ou morue commune, le merlu, le saumon de l'Atlantique, la sole, le thon germont, obèse et rouge, la crevette rose, le bar de chalut. Vous pouvez plutôt vous tourner vers des poissons comme le maquereau, le hareng, la sardine, l'anchois, la carpe et les mollusques comme les moules. Et pour finir, si tout ceci ne vous a pas convaincu, sachez que certaines espèces profondes apparaissent sur la liste de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments des espèces présentant un risque sanitaire pour les femmes enceintes et allaitantes ou les bébés de moins de 30 mois. C'était Morgane sur CFM dans Les Hommes sont des animaux comme les autres. Je vous quitte avec la devise que symbolise le drapeau jamaïcain, Hardships they are, but the land is green and the sun shines. Il pourrait se traduire par il y a des souffrances, mais la terre est verdoyante et le soleil brille.
Trajectoire de la course à l'instantané.